libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web préféré si possible libre et rendez-vous sur le site de la radio et cliquez sur chat. Et vous nous retrouverez ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 9 avril 2019, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'association, c'est april.org, donc april.org, et vous y retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de liens de références utiles, les détails sur les pauses musicales, et évidemment cette page sera mise à jour après l'émission. Je vous souhaite une excellente écoute. Nous allons passer maintenant au programme de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Véronique Bonnet intitulée « Partager est bon ». D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur Wikipédia avec nos invités Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France et Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimedia France, mais avant tout wikipédien et wikipédienne de longue date. Et en fin d'émission, nous ferons un point sur la directive droit d'auteur, enfin sur la proposition de directive droit d'auteur avec Pierre-Yves Baudouin, toujours de Wikimedia France, et Étienne Gonu de l'April. Aujourd'hui à la réalisation pour sa première, ma collègue Isabella Vanni, que je salue avec l'aide d'Étienne qui est à côté d'elle actuellement. Alors, nous allons commencer par la seconde chronique de Véronique Bonnet. Alors, Véronique Bonnet est professeure de philosophie, elle est membre du conseil d'administration de l'April. Sa chronique s'intitule « Partager est bon ». Et pour cette deuxième chronique, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre ?»
Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Donc, Véronique, bonjour.
Bonjour, Fred.
Alors, Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de l'April.
Oui.
Et aujourd'hui, tu es là pour ta chronique « Partager est bon ». Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre ?» Donc, un texte signé Richard Stallman.
En effet, alors, j'avais parlé la dernière fois d'idéalisme pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a un idéal du logiciel libre qui est de faire en sorte que tous les utilisateurs, tous les humains, puisque maintenant tous les humains utilisent l'informatique, aient leur autonomie préservée. Et donc l'idée de la philosophie GNU, c'est d'appliquer ce principe-là d'une émancipation, d'un respect, à différentes occurrences de la société. Et là, par exemple, on va aller dans ce texte de Richard, de ce principe universel qui rappelait le logiciel libre est bien ce qui concerne tous les humains, leur donnant la possibilité de contrôler leur propre ordinateur. Le logiciel libre donne également aux utilisateurs la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. Donc ça, c'est pour le principe universel. Et il se trouve qu'il y a des apprentis utilisateurs qui s'appellent les élèves. Et ce texte leur est donc consacré. Ces raisons s'appliquent aux écoles comme à tout le monde. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a une graduation des argumentaires, hein, puisqu'il s'agit de montrer que s'il n'y a pas de logiciel libre à l'école, il peut y avoir des formes d'abstraction qui sont tout à fait non compréhensibles s'il n'y a pas d'accès au cœur du système qui s'appelle le code source. Alors, je vais montrer que dans cet argumentaire, Richard commence toujours par le moins important. Il va toujours de ce qui est le moins essentiel vers le plus essentiel. Alors, ce qui, à lui, paraît le moins essentiel, c'est l'argument monétaire, c'est l'argument financier. Et effectivement, on sait à quel point il précise assez régulièrement que free software, ça ne veut pas du tout dire logiciel gratuit, mais logiciel libre. Et il se trouve qu'il y a un argument qui est d'ailleurs parfois employé, on tremble qu'il soit employé, que seulement celui-là soit employé, qui est que adopter le logiciel libre dans les écoles permet un gain financier important. Le logiciel libre, alors là je cite Richard Stallman, le logiciel libre fait économiser de l'argent aux écoles, mais c'est un bénéfice secondaire. Il permet des économies, car il donne aux écoles comme aux autres utilisateurs la liberté de copier et de redistribuer les logiciels. L'éducation nationale, ou tout système éducatif, peut en donner des copies à toutes les écoles, et chacune peut installer les programmes sur ses ordinateurs sans avoir besoin de payer pour le faire. Et donc je dirais que ce bénéfice, il est factuel, il est réel. Bon, c'est vrai que parfois il compte beaucoup aux yeux de ceux qui administrent les dossiers publics. Bon, c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'à un moment, la gendarmerie a basculé dans le logiciel libre. Peut-être que ça permettait d'acheter des véhicules, d'autres ordinateurs, sans avoir à chaque fois à payer pour la remise à jour ou pour l'acquisition de logiciels privateurs. Alors, une fois ce premier argument évoqué, parce qu'il est réel, même s'il est secondaire, il va y avoir des arguments qui vont être beaucoup plus forts et beaucoup plus en phase avec l'éducation nationale, puisque éduquer, encore une fois, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés, pour aller vers les autres. Alors, je livre, puisque cet argumentaire est présenté sous une forme qui est très ramassée, qui est très efficace, et on va vers déjà du plus essentiel, je cite, « Il s'agit ici de faire de la bonne éducation plutôt que de la mauvaise éducation. Approfondissons donc la question. » Et là, Richard dit que cet argument, il commence à occuper la première place dans les préoccupations de quelqu'un qui veut vraiment adhérer à l'idéal du logiciel libre. Alors, si on parle de bonne éducation, c'est parce qu'une éducation qui interdirait certains savoirs, par exemple la compréhension d'un code source, serait ennemie de l'éducation. Là, je cite très exactement ce qui est dit dans le texte. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Et donc, si on veut que cette possibilité de participer à des échanges et à des choix collectifs soit préparée à l'école, il va de soi que une forme d'éducation qui tournerait le dos à la transparence du code source serait en effet une opposition au savoir que l'on cherche. Je cite toujours, le savoir que tu recherches est un secret, donc c'est ce qu'on dit lorsqu'on utilise une informatique non libre, apprendre est interdit, et dans ce cas-là, le logiciel privateur est par essence celui qui entrave le savoir. On est dans ce que Richard Stallman appelle le culte du technologique. Et je dirais que sur ce point, le travail qui est effectué par la philosophie GNU est dans la lignée d'un certain théoricien qui s'appelle Michel Foucault. Michel Foucault qui dit qu'il y a deux possibilités. Soit on fait du savoir un contre-pouvoir, c'est ce que veut tenter le logiciel libre, puisqu'on apprend à des citoyens, de futurs citoyens, à ne pas être manipulés. Soit le savoir est la chasse gardée du pouvoir. Et on voit bien que si on va vers des formules qui disent que la technologie est sacrée, qu'elle est réservée à quelques-uns, que seuls quelques-uns peuvent comprendre, là, en effet, on est dans une démarche qui n'est pas éducative, qui ne relève pas de la bonne éducation, mais de la mauvaise éducation. Alors, ceci nous amène au troisième argument, qui n'est pas des moindres. Encore une fois, on va vers des propositions qui sont de plus en plus essentielles. puisque le logiciel libre permet l'accès au code source, ceci est essentiel, certes, pour ceux qui ne seront pas informaticiens, pour quiconque sera un citoyen, et je dirais que c'est essentiel aussi pour ceux qui deviendront informaticiens, qui à leur tour écriront du code, puisque, en effet, le logiciel libre est propice à la maîtrise du code, à l'innovation, étant donné que lorsque le code source est ouvert, il est certain que les futurs informaticiens pourront être dans des conditions optimales pour construire, déconstruire. Bon, par exemple, ils pourront déconstruire par la rétro-ingénierie ce qu'il en est des logiciels privateurs. Alors là, je cite à nouveau Richard. Les écoles qui utilisent du logiciel libre permettent aux apprentis programmeurs doués de progresser. On apprend à écrire du code bon et clair en lisant beaucoup de code et en écrivant beaucoup de code. Seul le logiciel libre le permet. Alors là, c'était le troisième argument. J'en arrive à l'argument essentiel, bon, on devine lequel, hein, puisque le logiciel libre n'est pas simplement une affaire technologique, mais une affaire éthique. Et la raison la plus profonde, c'est l'éducation morale. Éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Alors, je cite le texte de Richard Stallman, « Apprendre aux élèves à partager des logiciels, et ceci dès la maternelle. » C'est-à-dire que là, on est bien dans l'idée d'une éducation qui va être tournée vers les autres, qui ne sera pas repliée sur soi, et qui va ouvrir à ce que le pragmatisme qui est de courte vue, parfois ne comprend pas, qui ouvre à l'autonomie. Hein, et je pense bien sûr aux problématiques contemporaines, je pense que Fred aussi, tu partages cette idée, que sans relâche, bon, chaque fois que nous avons à faire, là par exemple le projet de loi sur l'école de la confiance devant le Parlement, donc devant l'Assemblée nationale, n'a pas pu être doté de cet amendement essentiel qui aurait étendu la priorité au logiciel libre de l'enseignement supérieur au lycée et au collège. Maintenant, ceci va aller devant le Sénat. Il me semble que sans relâche, nous avons à faire usage de ces arguments, du plus léger au plus lourd, à celui de la moralité. Économiser de l'argent, certes, peut-être qu'il y a des comptables qui sont sensibles à cet argumentaire, pourquoi pas, puisqu'il est factuel. Éduquer effectivement, le but c'est d'éduquer, de faire de la bonne éducation. Former des informaticiens qui puissent pratiquer le code en ayant accès au code source. Et surtout, la moralité, puisque, et c'est le titre de cette rubrique, partager est bon.
Bien, merci. Merci Véronique. Évidemment, je pense que toutes les personnes qui écoutent partagent ce que tu viens de dire. Je précise que nous enregistrons cette chronique donc en avril 2019 et que donc le projet de loi pour une école de la confiance, dans, comme tu l'as expliqué, donc lors de son examen à l'Assemblée nationale, il y avait des amendements visant à introduire la priorité au logiciel libre dans le monde de l'éducation nationale, que ces amendements ont été rejetés notamment par le ministre donc Jean-Michel Blanquer. En termes de calendrier, en avril, le projet de loi va être étudié au Sénat. Et nul doute que les sénateurs et sénatrices vont redéposer un amendement priorité au logiciel libre. Parce que je vais rappeler que en 2013, le premier amendement priorité au logiciel libre dans un petit bout de l'enseignement supérieur et de la recherche était initialement déposé au Sénat. Donc on va encourager les personnes évidemment qui nous écoutent à contacter les sénateurs et sénatrices et à s'appuyer donc sur ce texte notamment de Richard Stallman et les arguments que tu as cités. Donc le texte de Richard Stallman, c'est pourquoi les écoles devraient utiliser en priorité ou non, exclusivement même, des logiciels libres. On va préciser que évidemment il faut une phase de transition. C'est pour ça que cette notion de priorité au logiciel libre. Donc les références sont évidemment sur le site de l'April et sinon vous retrouverez ce texte sur le site de GNU, donc GNU.org, GNU.org. Ben écoute, je te remercie Véronique pour cette chronique dont je rappelle l'intitulé est Partager les mots. Merci Véronique.
Très bonne journée.
Bonne journée.
Eh bien, vous venez donc d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April, donc sur la thématique de pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre. Donc cette chronique a été enregistrée il y a quelques jours et je disais que bientôt le projet de loi pour une école de la confiance serait examiné au Sénat. Il se trouve que j'ai sous les yeux ce 9 avril 2019 une petite fenêtre avec Jean-Michel Blanquer, le ministre, qui est auditionné actuellement au Sénat. Donc suivez le site de l'April, nous mettrons des références évidemment pour les amendements logiciel libre ou autres, en tout cas des comptes rendus, donc ça va bientôt commencer. Nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter un morceau qui s'appelle le Cat Machine de Dag Z et on se retrouve juste après.
Cause commune. Possibilités proposées par les studios Tournerif. C'est avec finesse et opiniâtreté que Fred détarpe les notes, anti-calcarise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable, même à 90 BPM. Faites étinceler vos grooves, reluire vos heavy metal, rehaussez vos salsa avec les studios Tournerif.
Eh bien, vous écoutez toujours plutôt l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. J'espère que vous avez dansé comme nous dans le studio sur ce morceau, donc je rappelle, qui s'appelle Cat Machine. L'artiste, c'est Dag Z, c'est sous licence Art Libre et vous retrouvez évidemment la référence sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur Wikipédia, donc avec nos invités que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'émission du 5 mars 2019, car ces personnes étaient déjà présentes. Donc Pierre-Yves Baudouin, donc président de Wikimedia France. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Frédéric.
Et je laisse quelques secondes à Nadine Lelirzin, secrétaire de Wikimedia France, qui vient de s'installer. Bonjour Nadine.
Bonjour à tous.
Alors, cette émission, comme je le dis, fait suite à la première émission que nous avons diffusée donc, le 5 mars 2019. Donc la référence est sur le site de l'April si vous voulez écouter le podcast ou lire la transcription. L'idée de cette deuxième émission, c'est certaines personnes qui nous écoutaient nous ont dit « Wikipédia, c'est quand même un acteur de plus en plus important dans le monde ». Et il faudrait consacrer une deuxième émission pour rentrer peut-être un peu plus en détail sur certaines problématiques ou en tout cas questions liées à ce fameux bouton modifié, et puis également aussi sur le fonctionnement interne de l'encyclopédie, les liens entre la fondation Wikipédia, Wikimedia plutôt, les chapitres locaux et Wikipédia. Et donc c'est pour ça qu'on vient de nouveau donc Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin qui sont, en plus d'être Wikimedia France, sont avant tout, comme je l'ai dit en début d'émission, des Wikipédiens et Wikipédiennes de très longue date. Donc on va d'abord faire un tour de table de présentation rapide. Hein. Nadine, est-ce que tu peux simplement te représenter ce que tu fais dans la vie et ton activité sur Wikipédia ?
Sur Wikipédia, je contribue comme n'importe quel contributeur à corriger, à écrire, créer des articles, vérifier, passer derrière les modifications des autres. Et je fais ça depuis 2008. Et à un certain moment, je me suis dit, j'ai envie de continuer un petit peu plus encore à défendre les projets. Je trouvais que dans le milieu où j'étais, ils étaient mal perçus, dans le milieu un peu universitaire, enfin ce genre de choses. Mais c'était il y a plusieurs années, les choses changent heureusement. Donc j'avais envie d'avoir un peu des billes pour défendre de manière théorique un projet que j'aimais déjà de tout mon cœur, mais parfois il me manquait les mots pour le défendre tout simplement. Je suis donc devenue membre de l'association Wikimedia France.
D'accord.
Voilà, on passe de l'encyclopédie à l'association, mais les deux sont bien deux choses très différentes.
Alors, nous aurons l'occasion justement de détailler ça et de voir les liens entre les deux choses, les deux structures, les deux projets. Pierre-Yves Baudouin.
Alors, quant à moi, j'ai commencé en 2004, donc mes contributions ont changé au cours du temps. Ces dernières années, quand le temps me le permet, je fais la photo de sport principalement et de cimetière, plus original.
Alors, rappelle-nous-moi comment s'appellent les gens qui sont justement fans de cimetières.
Les tafophiles.
Tafophiles, voilà.
Et sinon, je suis l'actuel président de Wikimedia France. Donc, assez vite, je me suis tourné vers les structures du mouvement pour faire connaître ce projet qui est Wikipédia et puis ses projets associés. Donc, je fais beaucoup de relations publiques, relations presse, voilà.
D'accord. Alors, on me signale en régie qu'il faudrait que vous parliez un peu plus proche du micro tous les deux pour que le son soit parfait. Voilà, c'est signalé. Alors, on va d'abord, même si on a déjà fait une première émission sur le sujet, on va quand même revenir sur certains fondamentaux avant d'aborder de nouveaux sujets. Et on va d'abord commencer par rappeler les bases. Alors, pour faire plus simple, hein, je suis parti des 5 principes fondamentaux. Je vais les lister un par un et puis vous allez me réagir là-dessus pour m'expliquer un petit peu ce que sont ces 5 principes fondamentaux de manière à ce que les personnes qui nous écoutent comprennent quels sont les principes de base de Wikipédia déjà. Alors, premier principe fondamental, Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une encyclopédie ? Alors, qui commence ? Nadine ? Pierre-Yves ?
Alors, je peux commencer.
Pierre-Yves ?
Donc, oui, l'idée, c'était de rappeler que l'objectif du projet, le but principal, est de rédiger une encyclopédie. Et donc, non pas, par exemple, un dictionnaire, non pas un réseau social. Donc, ça permet d'exclure aussi tout un tas de contenus et tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément leur place sur ce projet. Et aussi que tout le monde ait un même but. Donc voilà un peu ce premier principe fondateur. À noter qu'ils ne sont pas apparus dès la création de Wikipédia. Ils sont apparus en 2005. Ils ont D'accord. été imaginés par nos amis anglophones, donc sur tous les Américains, je pense. Et puis peut-être le fondateur de Jimmy Wales de Wikipédia y a participé. Et donc, il y en a 5 dans la plupart des langues, sauf les Allemands, on les appelle le cinquième, et donc eux, ils n'en ont que 4.
Alors, on parlera du cinquième. Je précise donc que Wikipédia a été créé en 2001, donc 4 ans après, il y a eu ses principes fondateurs. Donc, est-ce que tu veux préciser quelque chose sur le premier point, Nadine ?
Sur le fait que c'est une encyclopédie, oui. Ouais. Parce qu'en creux, ce n'est pas une tribune, ce n'est pas un journal intime, ça, je pense que ce principe a été posé parce que encyclopédie libre donnait cette impression que c'était libre d'y faire n'importe quoi. Tout le monde peut écrire dedans, donc on peut aussi écrire n'importe quoi. Il fallait restreindre un peu le sujet.
D'accord. Alors c'est en lien d'ailleurs avec le deuxième principe fondamental, hein, qui est que Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Alors qu'est-ce que la neutralité de point de vue ?
Alors c'est un objectif auquel les articles doivent tendre. Tous les articles ne respectent pas forcément ce principe, mais l'idée c'est que le rédacteur de l'article, les rédacteurs et rédactrices des articles ne doivent pas donner leur avis. Ne doivent pas laisser transparaître leurs avis, leur militantisme, par exemple, dans les articles. En fait, le travail d'un encyclopédiste, c'est de vulgariser, de synthétiser le savoir, ne pas le créer lui-même. Donc, on ne se substitue pas aux journalistes et aux chercheurs, notamment. Et donc, il faut synthétiser ce savoir s'il existe, et s'il n'existe pas, du coup, Wikipédia ne peut pas traiter le sujet.
D'accord. Nadine ?
Je trouve que dans l'ensemble, les contributeurs au long cours sont tous de bonne foi, et c'est tous de respecter cette neutralité au mieux. Hein. C'est souvent les discussions qui font ressortir la neutralité parce qu'on se confronte aux idées de l'autre, et que les problèmes, quand il y en a, viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes qui ne viennent contribuer que sur un seul sujet, qui ne sont pas qui sont pas souples, qui sont persuadés de détenir une vérité ou d'avoir autorité sur un sujet.
Alors justement, on prendra un exemple tout à l'heure dans la suite de l'émission pour mieux faire comprendre aux personnes qui nous écoutent comment ça se vit au quotidien. Troisième point fondamental, Wikipédia est publié sous licence libre. Ça veut dire quoi, Nadine ?
Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quand vous publiez quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui sorte de vous. Vous, par exemple... Moi, je pensais aux photos plus particulièrement, mais enfin, ça, c'est sur Wikimedia Commons. Si vous prenez une photo, elle est à vous, enfin, vous l'avez faite, vous la donnez au monde licence libre, vous permettez aux gens de s'en resservir, de l'utiliser commercialement ou non, enfin, de l'utiliser. Mais aussi, licence libre, c'est... Enfin, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur l'encyclopédie, et en même temps, les autres peuvent s'en servir. Je suis en train de m'embrouiller.
Alors, c'est pas grave. Non, tu t'embrouilles pas. Effectivement, tu as bien commencé l'explication, et donc Pierre-Yves va la finir. Donc déjà, rappelez quelle licence libre aujourd'hui, on va pas rentrer dans l'historique, mais aujourd'hui est utilisée par Wikipédia.
Alors actuelle, c'est la Creative Commons CC by SA.
Donc partage à l'identique.
Voilà. Donc ça permet notamment la réutilisation commerciale ou non commerciale, ça permet la modification, la libre modification, et bien sûr la libre diffusion du contenu qu'il y a sur Wikipédia, que ce soit texte ou tout ce qui est illustration. Donc c'est un aspect assez important qui permet d'atteindre notre mission, parce que la mission du mouvement Wikimedia est d'apporter la connaissance au maximum de personnes, et donc ça passe notamment par les licences libres. Nous estimons en tout cas que ça passe par ça.
Oui, par exemple, un éditeur qui voudrait reprendre des textes, des parties de textes, d'articles pour les éditer et faire payer ses manuels auprès des écoles, enfin peu importe, pourrait le faire. Il suffit qu'il cite la source, qu'il dise d'où vient ce texte.
Exactement. Et on va dans la première mission, on avait un peu parlé de l'historique et notamment du premier projet qui n'avait pas ce mode de fonctionnement. Et puis on va rappeler que c'est dans la suite logique des licences libres du logiciel libre qui, dès le départ, effectivement, ont fait par principe une réutilisation, modification et sans restriction commerciale, parce qu'on va préciser que dans les licences Creative Commons, il y a des licences qui interdisent les réutilisations commerciales. Mais nous aurons l'occasion bientôt de faire une émission sur ce sujet. Alors là, c'est de mémoire que je dis, je pense que c'est le 7 juin, ou plutôt le 7 mai. Non, le 7 mai, je pense que on va faire une émission justement sur les licences libres, logiciels et contenus. Alors on avance. Quatrième principe fondamental, c'est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre. Alors on va peut-être en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais déjà en introduction, qu'est-ce que signifie ce principe-là ?
Donc effectivement, notamment la Wikipédia francophone, c'est par exemple 18 000 contributeurs et contributrices. Donc pour que ce projet collaboratif fonctionne, il faut que des règles de savoir-vivre soient respectées, comme dans n'importe quelle cité. Et donc voilà, de temps en temps, ou régulièrement, la communauté dit à un rédacteur, même s'il a de bonnes compétences, il est capable de synthétiser le savoir, certains sont incapables de vivre en communauté et de respecter le travail des autres. Donc le principe de Wikipédia ne peut pas fonctionner comme ça, parce que ce n'est pas le dernier qui passe sur l'article qui l'emporte. Il faut accepter le travail qui a été fait depuis des années, voire quelques générations maintenant. Donc voilà, c'était de rappeler un principe de base, mais bon, ça permet aussi de... c'est bon de le rappeler dans nos projets.
Oui, c'est toujours bon de rappeler des principes de savoir-vivre dans des communautés. Nadine, tu souhaites ajouter quelque chose sur ce point-là en tant que...
Non, ça parle de soi.
Ça parle de soi.
Le savoir-vivre, voilà. Ça semble tellement évident.
Alors, ça semble tellement évident, mais on verra peut-être dans les exemples tout à l'heure que ce n'est pas forcément évident. Et puis, pour toutes les personnes qui agissent dans des communautés humaines, on sait que des fois, le savoir-vivre n'est pas forcément partagé. Et puis, des fois, il y a des comportements dont il faut tenir compte et les gens n'ont pas forcément les mêmes. Dernier point, donc tu disais que la Wikimedia allemande ne suivait pas ce dernier point. Alors je vais rappeler ce dernier point donc fondamental, c'est que Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes que les 5 principes fondateurs énoncés ici. N'hésitez pas à être audacieux et audacieuse dans vos contributions puisque l'un des avantages de pouvoir modifier Wikipédia est que tout n'a pas à être parfait du premier coup et Nadine l'avait bien expliqué dans cette première émission. Donc je te laisse éventuellement commenter ce cinquième point.
Oui, c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante, voilà. C'est allez-y, n'hésitez pas, il y a un bouton modifier, mais en même temps, il y a aussi le bouton qui dit reverter, révoquer la modification et revenez dans l'historique, à la version juste précédente. Quant à dire qu'il n'y a pas de règles, c'est peut-être un peu abusif, parce qu'en fait, il y a tellement de recommandations qu'à force, elles forment un tissu...
Encore plus de règles.
Oui. Mais elles ne sont quand même, ce ne sont pas des principes. On
D'accord.
va dire qu'elles restent modifiables, améliorables.
D'accord. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les exemples concrets. Est-ce que Pierre-Yves, tu veux rajouter un point sur quelque chose sur ce point-là?
Bah, celui-là est assez important. Ça permet que les gens n'aient pas peur de la somme des règles. Ne pensent pas qu'il faille tout lire d'un seul coup avant de contribuer. Il faut sauter dans le bain. Et puis petit à petit lire les apprendre, découvrir les us et coutumes et lire les autres règles.
Ok, alors ça c'est donc les 5 principes fondamentaux. On va maintenant arriver sur un deuxième sujet, le fameux bouton modifié, dont on a évoqué la semaine dernière la puissance, les premières étapes de ne pas créer forcément une nouvelle page, mais plutôt de contribuer à des pages déjà existantes. Mais suite à l'émission, on a eu des retours avec des questions, comment ça se passe en pratique, et notamment comment se traitent par exemple des différences, des différents points de vue, ou en tout cas des modifications qui peuvent être concurrentes. Une autre question qui est venue aussi, c'est qu'à partir de quand devient-on un wikipédien ou une wikipédienne? Est-ce qu'il y a différents statuts? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où on modifie une page, on est de facto membre de cette communauté-là? Ou est-ce qu'il y a des grades, entre guillemets, en fonction du nombre de pages modifiées? On parlera aussi de deux sujets dont je l'annonce tout de suite, comme ça vous le savez. Le principe de la guerre d'édition, justement, quand on arrive à une problématique assez importante. Et le deuxième, on prendra un exemple sur un sujet très important qui est les biais de genre, alors qui n'est pas lié du tout à Wikipédia, mais qui existe. Et ça nous permettra de donner un exemple, justement, sur le projet récent, ou alors je ne sais pas si c'est un projet, mais en tout cas le matrimoine par rapport au patrimoine, et justement comment on gère à la fois des gens qui viennent de l'extérieur avec des ambitions qui sont peut-être différentes de celles d'une encyclopédie, et comment on gère au niveau de la communauté. Alors déjà, donc, le thème général, ce fameux bouton modifié. Donc on met de côté les modifications évidentes qui seraient une correction grammaticale ou mineure de vocabulaire, mais comment ça se passe quand, sur une même page, y a deux modifications qui pourraient être concurrentes, avec deux points de vue qui s'expriment, en tout cas deux idées qui sont mises en avant. Comment ça se passe, concrètement ?
Alors concrètement, une discussion s'engage, dans le cas qui se passe le mieux, on va partir de celui-là. Donc une discussion, dans la page de discussion, il y a un onglet...
Donc ça c'est la page de discussion, c'est le troisième onglet sur la page...
Attaché à chaque article de l'encyclopédie. Et donc chaque partie doit justifier son avis en apportant des sources de qualité, des sources fiables, selon plus le sujet va être polémique... plus le sujet va être abondamment traité par notamment le milieu académique, plus on va exiger des sources universitaires. Et si c'est un sujet un peu plus léger, là, ça peut être des sources journalistiques. Donc, voilà. Une discussion se fait et ils doivent se mettre d'accord. Il doit y avoir ce qu'on appelle un consensus. Donc, l'idée n'est pas sur Wikipédia, il n'y a pas de vote à la majorité. Une fois que 51% est pour, hop, on met cette modification. Donc voilà, ils doivent absolument se mettre d'accord parce qu'il n'y a pas de comité éditorial sur Wikipédia. Donc, personne tranche sur le fond. C'est vraiment la communauté, donc les rédacteurs qui s'intéressent à cette thématique qui décide de quelle orientation doit prendre l'article. Donc tout cela basé sur des sources déjà existantes. Après, ça peut aussi dériver dans des conflits d'édition, des guerres d'édition, pardon. Plutôt. Donc là, c'est des gens en fait qui ne discutent pas, mais qui essayent d'imposer leur version de l'article un peu par la force. Et donc le moyen de le régler, c'est que souvent ces gens-là sont interdits de modifier l'article.
Ah, donc, ils sont interdits par qui, en fait ?
Alors, il y a quelques personnes dans les communautés qui ont le statut d'administrateur.
D'accord.
Ou SysOp en anglais, System Operator, qui peuvent protéger en lecture les articles.
Et aussi, en écriture.
En écriture, pardon. Donc voilà, souvent quand il y a des guerres d'édition, ça conduit en fait à figer l'article sur une version. L'autre, souvent la deuxième partie, une des parties dit que c'est la mauvaise version, bien évidemment.
Bien entendu.
Et donc pour les obliger un peu à discuter. Sinon, ça peut aussi, les administrateurs peuvent aussi bloquer en écriture des comptes pendant quelques temps si ces personnes font vraiment le bazar sur Wikipédia.
D'accord. Alors, avant que Nadine intervienne sur ce sujet qui est évidemment essentiel, donc je précise que les administrateurs ou administratrices sont des membres de la communauté Wikipédia et ne sont pas membres forcément des chapitres locaux, parce que tout à l'heure, on parlera des chapitres. Là, on parle vraiment de la communauté Wikipédia.
Oui, oui.
Alors, c'est important de le préciser parce que les gens peuvent se dire que finalement, en France, ça serait Wikimedia France qui pourrait prendre ce rôle d'administrateur. Pas du tout, Nadine.
Surtout pas. Wikimedia France, c'est une association loi 1901 qui défend la diffusion de la culture libre et qui la défend notamment à travers les projets Wikimedia, donc Wikipédia en premier. Mais c'est tout. On poursuit peut-être les mêmes buts au final, mais par d'autres moyens. Rien à voir avec l'éditorial, on n'a vraiment rien à dire sur ce qui se passe sur l'encyclopédie. Simplement, autant Pierre-Yves que moi, nous sommes tous les deux contributeurs depuis pas mal d'années. Donc là, en ce moment, on est en train de vous parler en tant que contributeur, en tant que membre de cette communauté wikipédienne.
Quand je vous ai réinvité, tu as bien insisté sur le fait que tu voulais intervenir en tant que wikipédienne contributrice et non pas en tant que Wikimedia France.
Voilà, surtout pas.
Voilà.
Oui. Donc tout ce qu'on vient de vous dire, en fait. Et pour être tout à fait, c'est pas optimiste d'ailleurs, c'est réaliste, on est membre de la communauté à la première virgule. Rien, si on est de bonne volonté, on arrive sur un sujet, même si on n'est pas d'accord et qu'on vient défendre un point de vue qui n'est pas encore défendu dans l'article, même sur un sujet polémique, on est déjà membre de la communauté. Donc, si on va déjà sur la page de discussion pour amener des sources et pour dire « mais si, quand même ».
Non, je te fais juste un petit signe pour les bagues.
Ah, les bagues qui font du bruit dans le micro.
Voilà, ça risque. Donc ça, c'est important aussi de préciser, c'est que même sans avoir utilisé le bouton modifier, mais en utilisant l'onglet discussion, c'est-à-dire en apportant ce qui est point essentiel des sources, selon toi, on fait déjà partie de cette communauté de Wikipédiennes et Wikipédiennes.
Oui, parce que si on est déjà de bonne volonté pour l'améliorer, pour ajouter quelque chose. Et on commence à discuter, par exemple, sans encore avoir fait de modification dans l'article lui-même, mais c'est déjà modifié, parce que pour discuter, il faut aussi cliquer sur un bouton modifier. C'est un wiki.
Il faut se créer un compte pour le bouton discussion, c'est ça ?
On pourrait le faire sous IP, on n'est pas obligé d'avoir un compte.
Alors, sous IP, adresse IP, c'est-à-dire l'adresse internet de la personne qui se connecte.
Voilà, c'est-à-dire que c'est le numéro qui correspond à l'ordinateur depuis lequel vous travaillez et qui se met automatiquement. Enfin, c'est une série un petit peu longuette. C'est assez difficile dans les discussions de parler avec des IP, parce qu'on oublie les numéros et on ne sait plus à qui on parle.
Avec des pseudos, c'est quand même beaucoup plus simple.
C'est plus simple, on est plus habitué, voilà. Quoi, disons. Moi, je peux être un peu fâchée avec les chiffres en plus. Autre chose, c'est que quand Pierre-Yves dit que les administrateurs peuvent bloquer la page, l'interdire en écriture, ce n'est pas de leur propre chef.
Comment ça se passe?
C'est-à-dire que souvent, ce sont les gens qui discutent, qui voient que ça ne...
Qui sollicitent les administrateurs et administratrices.
Ça devient infernal, quoi. D'accord. C'est-à-dire que l'article passe d'un moment à un autre. Enfin, il commence à tirailler de tous les côtés. C'est quand les gens ne respectent plus la règle de la discussion et du savoir-vivre que les administrateurs interviennent. Finalement, les administrateurs, ils ne sont pas plus malins que les autres. Hein. Ils ne connaissent souvent pas le sujet du tout, d'ailleurs. Ils ne se mêlent pas de l'éditorial. C'est D'accord. pour ça aussi qu'ils peuvent bloquer un article sur une mauvaise version. Ça peut arriver, mais après, ça se résout assez rapidement.
En fait, leur action, c'est d'essayer que ces personnes rediscutent à nouveau.
Exactement.
Et arrivent à un consensus.
Leur rôle, c'est d'intervenir quand le savoir-vivre est débordé, quoi. Parce qu'on peut s'énerver aussi, hein, le savoir-vivre, des fois...
Oui, on peut être fatigué des fois.
On le perd un petit peu et puis on le retrouve. Enfin, oui. on va faire un tour et puis on revient et puis ça va mieux. Et puis si tout le monde est de bonne volonté, on y arrive à nouveau. Mais parfois, il faut que les administrateurs interviennent parce que on veut pas aller prendre l'air.
D'accord. Avant de donner la parole à Pierre-Yves, peut-être sur ce sujet-là, je vais préciser que sur Wikipédia, vous avez une page qui s'appelle Guerre d'édition, qui est relativement courte, hein, qui vous permet de comprendre en détail comment ça se passe. Et il y a un schéma qui vous explique, voilà, avec des petites flèches et tout, comment se passe effectivement une guerre d'édition, comment on passe d'un ancien consensus à une guerre d'édition et comment on retrouve un nouveau consensus à la fin grâce à l'intervention donc des personnes qui ont un rôle d'un statut d'administrateur-administratrice, mais dont le but, comme le dit Nadine, c'est de rétablir justement la discussion pour retrouver un nouveau consensus. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là avant qu'on aborde le sujet matrimoine-patrimoine?
Je rappellerai que Wikipédia, on peut le considérer comme un bien commun. Et donc, même si dans les faits, il y a des Wikipédiens et des non-Wikipédiens, pour moi, en fait, tous les internautes sont potentiellement des Wikipédiens. Il n'y a pas de frontière. Je rajouterai, en plus des rédacteurs d'encyclopédie et de ceux qui laissent des messages en page de discussion, aussi les donateurs. Et puis après, même potentiellement, c'est une partie de l'Internet. Et donc voilà, tour à tour, des internautes peuvent venir contribuer à Wikipédia et d'autres pas encore. Mais voilà, il n'y a pas de frontières. Et donc, et c'est ce qu'on essaye d'estomper au sein de Wikimedia France. Donc voilà, tout le monde peut participer et devrait y participer, nous l'estimons. Donc voilà, même si dans les faits, on est bien obligé de parler, de dire que...
Mais tout le monde ne contribue pas dans les faits, oui. Mais quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai trouvé une erreur sur tel article, voyez, cette encyclopédie, oui, elle n'est pas fiable », vous pouvez aussi lui répondre pourquoi ne l'avoir pas corrigé.
Effectivement, et je crois qu'on en avait parlé dans la première émission sur le fait de la difficulté de passer à cliquer sur ce bouton modifier. Oui. Voilà, c'est toujours compliqué. Alors, on ne va pas passer tout de suite au sujet matrimoine parce qu'on va faire une petite pause musicale vu que en fait, le temps avance. Hein, on discute le temps avance et on va rentrer sur un deuxième sujet, enfin toujours le même sujet mais sur un point... d'exemples particuliers relativement récents. Mais d'abord, on va faire une pause musicale. Donc, l'album s'appelle Sprung Back Around de Fog Lake et on se retrouve juste après.
Cause commune.
Yeah.
venons d'écouter Sprung Back Around de l'album Dragon Chaser de l'artiste Fogleg. Alors c'est sous licence Creative Commons By, c'est-à-dire uniquement attribution. Et évidemment les sites, les références sont plutôt sur le site de l'April. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. C'est l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de logiciel libre, mais on parle d'un autre sujet tout à fait important qui est la connaissance libre avec Wikipédia, donc toujours avec Pierre-Yves Baudouin et Nadine Lelirzin, donc qui sont wikipédiens et wikipédiennes depuis de longue date, donc qui contribuent à l'encyclopédie. Alors, avant la pause musicale, nous parlions de guerre d'édition, qui est un terme consacré à Wikipédia. On va continuer sur un exemple de comment gérer des contributions sur Wikipédia, avec notamment aussi la question de parler des biais de genre dans les projets des encyclopédies, notamment. Alors, je n'ai pas les stats en tête, peut-être que Pierre-Yves les a sur le nombre, par exemple, de pages de personnalité féminine versus personnalité masculine. Et donc récemment, c'était en septembre 2018, il y a eu le projet, alors je ne sais pas si c'est un projet, mais tu m'expliqueras ça en plus en détail, Pierre-Yves et Nadine. C'est donc à l'occasion des Journées du Patrimoine, il y a eu des ateliers pour faire vivre, donc je lis le texte, des textes d'autrices sur Wikipédia, mais aussi pour abonder les pages consacrées aux femmes dans la grande encyclopédie en ligne. Et l'article que je lis, alors je ne sais plus quelle référence, je n'ai pas noté la référence, c'est « Des initiatives féministes dans un contexte difficile au sein de la communauté des Wikipédiens ». Alors déjà, donc, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'était ce projet et concrètement, quels ont été les points qui ont posé peut-être problème ou au contraire, les points qui ont été très positifs dans ce projet ?
Alors, le conflit qu'il y a eu en septembre dernier portait sur une catégorie. Les articles de Wikipédia, en fait, sont classés sous forme de catégorie et non pas de tag, comme on a l'habitude de le voir sur le reste de l'Internet. Donc voilà, c'est surtout utilisé par les rédacteurs de l'encyclopédie pour s'y retrouver tout ça. J'ai, à ma connaissance, aucun lecteur m'a jamais dit qu'il utilisait les catégories, qu'il les voyait. C'est tout en bas des articles. Et donc malheureusement, oui, il y a eu un conflit sur en fait, des personnes avaient créé la catégorie matrimoine, qui est un concept assez récent pour se démarquer des journées du patrimoine, comme tu l'as rappelé.
Parce que le terme patrimoine, en fait, c'est au final, souligne en fait le talent entre guillemets de grands hommes et oublie les femmes. Donc c'est pour ça que ce mot de patrimoine, de matrimoine, a été créé.
Voilà, c'était tout un tas d'œuvres architecturales, de statues qu'il y a dans la ville, qui sont réalisées en fait par des femmes et donc qu'on aurait pu regrouper dans cette catégorie matrimoine. Donc une discussion, il y a eu un désaccord, une discussion s'est enclenchée et donc elle a conclu à la suppression de la catégorie parce que comme c'est un concept récent, il n'y a pas encore assez de références à cette source qui atteste de l'utilisation de ce terme.
La suppression, pour revenir à la discussion tout à l'heure, c'est le consensus établi par les personnes qui contribuent à l'encyclopédie, c'est ça ?
Voilà. Après, il faut bien le distinguer, à ma connaissance, il y a un article consacré au matrimoine, à ce terme. Donc celui-là, il n'a pas été supprimé, c'est vraiment juste une catégorie. Donc je peux comprendre que ça ait heurté des gens. Je leur donnerai comme conseil quand même, comme c'est juste une catégorie qui, de mon point de vue, c'est pas très utile pour l'encyclopédie et surtout pour le grand public, qu'il faut un peu hiérarchiser ses combats et choisir ses combats. Et je pense que là, c'est pas très important de rester focalisé sur cette catégorie. Par contre, régulièrement, il y a des articles consacrés aux femmes qui sont aussi supprimés ou en tout cas, il y a des discussions. Et donc là, c'est plus important parce que c'est beaucoup plus visible sur Internet.
Oui, plutôt que se battre sur la catégorie, il faut se battre sur les autres articles. Mais finalement, alors, peut-être que Nadine va réagir aussi là-dessus. Comment se gère, justement, quand on parle de ce savoir-vivre tout à l'heure, qui est l'un des principes fondamentaux, comment ça se gère quand on a, d'un côté, quelque part, une communauté de personnes qui contribuent depuis longue date à l'encyclopédie en se basant sur des sources? Et puis de l'autre, des personnes qui défendent quelque chose qui est important, hein, mais qui quelque part, effectivement, arrivent sur un projet sans peut-être aborder la discussion avec les règles justement que ce projet connaît depuis des années.
Si ce sont des personnes qui arrivent uniquement sur ce sujet, qui ne contribuent à rien d'autre, qui n'ont jamais contribué à rien d'autre, c'est vrai que c'est un peu suspect, enfin ça fait un petit peu forcing. On voit aussi, il faut un petit minimum de contribution tout de même pour donner son avis dans les pages de discussion, parce que cette catégorie avait été proposée à la suppression. Donc la discussion s'est faite sur une page particulière qui a été ouverte pour l'occasion, qui était proposition de suppression de cette catégorie, et puis ensuite les gens discutaient et essayaient de donner leurs arguments là-dessus. Moi je l'ai lu un petit peu cette page, il y avait des arguments des deux côtés, enfin ça se... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà... Les arguments, je dirais, pour supprimer l'ont un peu emporté. C'était pas... Je pense que dans quelques années, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait recréer, par exemple. C'est possible. C'est possible. D'accord. Mais pour l'instant, c'est encore un néologisme. C'est encore trop récent. C'est encore... Enfin, même si c'est la reprise d'un mot, le mot matrimoine existait oui. déjà, bien évidemment. Hein. Il n'a pas été inventé pour l'occasion. Mais disons qu'on le trouve dans cette acception particulière depuis peut-être le début des années 2000. De concurrents à patrimoine.
D'accord.
Personnellement, j'aimerais bien un mot qui ferait pour les deux.
Qui ferait pour les deux. D'accord. Alors, on a abordé ce sujet parce que ça permet de montrer un peu dans la pratique comment ça se passe, les contributions. Alors, pas simplement sur les articles, mais aussi sur les catégories, là, parce que en l'occurrence, c'était sur les catégories. Mais ça permet aussi de donner l'occasion de parler donc, des 100 pages. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une association ou simplement un projet qui vise à nourrir l'histoire de l'apport donc, des femmes. Et dans ce cadre-là, donc c'est le 20, c'est une fois par mois, je crois. Donc tu vas me confirmer après, Pierre-Yves. Il y a un atelier donc 100 pages qui se passe donc à Paris et puis sans doute dans d'autres villes, qui vise donc à aider à contribuer sur des pages effectivement consacrées à l'apport des femmes dans l'histoire. Est-ce que c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc c'est une association que Wikimedia France soutient, qui existe depuis quelques années et dont l'objectif est de lutter contre le biais de genre. En fait, on a réalisé qu'il y avait un biais de genre assez important sur Wikipédia, qui prenait deux formes, que ce soit au sein des communautés. Les communautés sont essentiellement masculines. On n'a pas les chiffres exacts parce qu'on demande très peu d'informations personnelles au moment de l'inscription, mais des chercheurs ont fait des sondages et estiment à maximum 20% de femmes qui contribuent à Wikipédia. Et pareil pour les articles, là, c'est un peu plus naturel parce qu'on sait que l'histoire de France, par exemple, est surtout orientée sur les hommes. Et donc, à l'heure actuelle, la Wikipédia francophone a un peu moins de 18% de biographies consacrées aux femmes.
D'accord. Alors, je précise que donc, le prochain atelier donc, à Paris, c'est le 25 mai à la Gaîté Lyrique, mais qu'évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres villes, et donc c'est une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à venir, il suffit de venir simplement avec votre bonne volonté pour vouloir contribuer. Est-ce qu'il faut amener un ordinateur ou il y a des ordinateurs sur place à la Gaîté Lyrique?
Il faut plutôt. À la Gaîté Lyrique, je crois qu'il y a quelques ordinateurs.
D'accord. Bon, si vous avez un ordinateur portable, venez avec l'ordinateur portable, et puis sinon. Il y aura sans doute des ordinateurs disponibles là-bas. Donc voilà, c'est important de montrer aussi les projets qui sont faits dans ce cadre-là, effectivement, pour corriger ce que tu appelles les biais de genre. Alors, on va maintenant... tout à l'heure, on a, dans l'introduction, et puis même dans la première émission, on a cité d'autres projets de la galaxie Wikipédia. Peut-être en citer deux autres qui vous paraissent vraiment importants, parce que aujourd'hui, pour la plupart des gens, Wikipédia, c'est Wikipédia... .org ou .fr, mais il y a une dizaine d'autres projets. On a cité Commons tout à l'heure, donc est-ce qu'il y avait deux projets que vous voudriez mettre en valeur? Un chacun, tiens. On va commencer par Nadine.
Par exemple, le Wiktionnaire.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Wiktionnaire?
C'est un dictionnaire sur Wiki. C'est un Wiki-dictionnaire, en fait. Lui pourrait prendre matrimoine, par exemple, puisque lui pourrait accepter, il y est peut-être d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais...
On va demander à la régie de vérifier.
Le terme matrimoine, oui, pourrait tout très bien y être, même en tant que néologisme, même avec cette nouvelle acception. Parce que le Wiktionnaire enregistre ne porte pas de jugement, enfin, n'est pas une encyclopédie, lui c'est un dictionnaire, son principe c'est ça, c'est un dictionnaire. Et c'est une petite communauté, mais très active, et qui fait des choses assez formidables. Pierre-Yves pourrait peut-être préciser quelque chose, parce qu'actuellement il y a un projet qui est lié au Wiktionnaire, je pense à Lingua Libri.
Oui, c'est un projet initié par...
Lingua Libri, c'est ça?
Oui.
Connaît mieux que moi.
Dont l'objectif est d'enregistrer des mots de vocabulaire sous fichier audio. Donc en français ou sinon dans tout un tas de langues. À l'heure actuelle, je crois qu'ils en sont à 90 000 mots enregistrés dans une quarantaine de langues, si je ne me trompe pas. Mais c'est un projet assez récent. Enfin, en tout cas, la version bêta est sortie il y a quelques mois ou une petite année. L'outil permet à l'heure d'enregistrer un petit millier de mots. Donc c'est très rapide parce qu'on peut les lire en plus. L'idée, c'est d'avoir, on lit sur ordinateur une liste de mots. Et puis après, l'outil va détecter les pauses qu'on fait naturellement et donc découper les fichiers et les importer directement sur la médiathèque. Et puis après, ces enregistrements aussi permettent d'illustrer de manière sonore le dictionnaire.
D'accord, super. Alors la régie est très réactive, me précise que Matrimonial est effectivement dans le Wiktionnaire. Alors le site Wiktionnaire, c'est wiktionary.org, donc c'est wiktionary.org. Deuxième projet peut-être à citer rapidement, c'est Commons. On a déjà parlé de la première émission, mais Commons... Est-ce que tu peux nous le représenter rapidement, Pierre-Yves ?
Alors, Wikimedia Commons, c'est la médiathèque, notamment toutes les illustrations que vous voyez dans Wikipédia, enfin en tout cas, oui, quasiment toutes, sont sous licence libre et donc peuvent aller sur Wikimedia Commons. Parce que sur Wikipédia, il y a quelques exemptions droits d'auteur, donc il n'y a pas forcément que des fichiers libres. Mais par contre, on a voulu du coup faire un projet frère, Wikimedia Commons, qui là est totalement libre. Soit ce sont des fichiers dans le domaine public, soit ce sont des fichiers sous licence libre. Donc il y a principalement des photos, mais on trouve aussi un peu de cartes, de vidéos. Là, il y a le millionième enregistrement sonore qui vient d'être téléchargé il y a une semaine, par exemple. Donc voilà, notamment c'est très utilisé pour les exposés, pour illustrer les exposés en école primaire.
Ah bah on en parlait avant l'émission, on encourage évidemment les personnes qui font des exposés ou simplement qui font des articles et qui cherchent des illustrations, plutôt que d'utiliser un moteur de recherche pour aller piocher des images on ne sait trop où et dont on ne connaît pas forcément les droits de réutilisation, plutôt d'aller sur Commons. Donc c'est commons.wikimedia.org,
oui.
Le site web, et là vous trouvez des ressources que vous pouvez légalement réutiliser pour vos exposés, pour vos articles, pour vos conférences, parce qu'il y a aujourd'hui, quand il y a des gens font des conférences, on est sorti de cette maladie de mettre que des listes à points. Il y a des gens qui font des conférences uniquement avec des images, et donc vous pouvez trouver des images sur Commons. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres projets que vous retrouvez sur wikimedia.org. Il y a une liste de l'ensemble des projets. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu, là on a parlé un peu des projets Wikipédia, on va un peu parler maintenant de la fondation Wikimedia et également des chapitres locaux et du chapitre français pour expliquer un petit peu quel est le rôle de ces chapitres. Donc là vous allez reprendre vos casquettes, chapeaux, de ce que vous voulez de Wikimedia France à un moment. Alors on va d'abord rappeler, donc à l'origine il y a une fondation américaine Wikimedia et il y a des, en anglais c'est chapters, donc je suppose que la traduction officielle c'est chapitres. Oui. Donc locaux dans chaque pays, dont évidemment en France, Wikimedia France, dont Pierre-Yves est président et Nadine est secrétaire. Alors déjà, première question sur la fondation américaine, mais aussi sur les chapters locaux. Comment est financée cette fondation et à quoi sert l'argent? Parce que finalement, si les contributions sont faites par les personnes, finalement, à quoi sert l'argent?
Alors le gros de l'argent qui est collecté par les bandeaux qu'on voit s'afficher en fin d'année sur Wikipédia, en fait, cet argent est mis dans un pot commun. Et puis chaque organisation du mouvement fait un appel à projet, une demande de subvention. Même la fondation Wikimedia fait sa demande de subvention. Wikimedia France l'a fait aussi. Et donc ça permet de redistribuer cet argent qui est collecté par le biais des bandeaux de Wikipédia. À l'heure actuelle, le mouvement a un budget de 100 millions de dollars.
Donc sur le monde entier?
Oui.
D'accord.
Donc une grande partie va à la fondation américaine parce que c'est la principale organisation qui, en termes de salariés, elle a un peu plus de 300 salariés à l'heure actuelle. Dans le monde, il doit y avoir moins de 500 salariés.
D'accord.
Qui bossent pour Wikipédia et les projets frères. Donc, grosso modo, c'est 300 à la Fondation américaine. Après, il y a Wikimedia Deutschland, le chapitre allemand, qui est très gros parce qu'il a 100 salariés et un budget de 10 millions.
Ah oui ! Mais comment ça se fait ? Les gens de là-bas sont très...
Historiquement, ils sont très vite, parce qu'on a à peu près Wikimedia France et Wikimedia Deutschland se sont créés en quelques mois d'intervalle, en 2004. Et très vite, ils ont pris un sentier de croissance beaucoup plus rapide que Wikimedia France. Ensuite, ils se sont spécialisés sur le développement informatique. Donc, une grande partie, je crois, 80% de leur effectif doit être consacré au logiciel. Et puis c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup de membres, ils ont 70 000 membres. Enfin voilà, tout est gigantesque en Allemagne.
On reviendra tout à l'heure sur l'Allemagne quand on parlera de la directive droit d'auteur. Est-ce que sur cette partie de financement, tu veux rajouter quelque chose, Nadine ?
Non.
Non, pas du tout. Et la fondation américaine gère aussi, je suppose, beaucoup l'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, et sans doute les développements aussi sur les différents outils. Parce qu'on rappelle que derrière, il y a quand même aussi des outils comme le logiciel derrière, qui est un wiki, qui s'appelle...
MediaWiki.
MediaWiki, c'est ça. Entre Wikipédia, Wikimedia, MediaWiki, des fois, voilà. Et donc, je suppose que la Fondation gère beaucoup de...
Oui, c'est le principal rôle de la Fondation, même si on peut, en tant que bénévole, participer au développement du logiciel. Mais elle assure l'hébergement et le développement de MediaWiki.
D'accord. Alors, donc, il y a des chapitres locaux. Et donc, en France, il y a un chapitre local, donc, qui est Wikimedia France. Alors, qui existe depuis quand ?
2004.
Donc, alors, quel est le rôle, justement ? Alors, combien vous êtes à Wikimedia France en termes de... Il y a l'équipe, évidemment, conseil d'administration bénévole, il y a une équipe salariée. Et donc, quels sont les projets de Wikimedia France ? Nadine ?
Actuellement, on a 8 salariés, un conseil d'administration d'une douzaine d'administrateurs, administratrices. Et les projets... Je ne sais pas par où commencer. Par exemple, on est en train de préparer une résidence pour un Wikipédien aux archives départementales de l'Hérault.
Et il y en a aussi un aux archives nationales à Pierrefitte.
Tout à fait.
Dans la première émission, on en avait parlé, j'avais situé ça à Saint-Denis, mais en fait, c'est à Pierrefitte.
Tout à fait. On a déjà eu aussi, il y a quelques années, un Wikipédien en résidence au château de Versailles. C'était très, très intéressant.
Alors justement, c'est un bon exemple. Quel est le rôle de cette personne dans une structure publique ?
Ce Wikipédien va aider la structure à se servir de cet outil merveilleux de diffusion qu'est une encyclopédie comme Wikipédia. C'est-à-dire les services publics, dont la mission principale est de rendre service au public... n'ont pas toujours finalement les moyens et ils ont cet outil formidable qui est l'encyclopédie, ils ont cet outil formidable qui est Wikimedia Commons, le dépôt de photos, de vidéos, etc. Mais ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir, ils ont des merveilles et ils ne savent pas finalement comment les faire connaître, les mettre à disposition du public. Donc nous, on les aide de cette manière-là. Le Wikipédien ou la Wikipédienne qui est en résidence va finalement former à l'intérieur à déposer des textes sur Wikisource, des sources sur les articles, créer des articles éventuellement sur des œuvres d'art, suivant l'endroit où on est, hein. et éventuellement des photos. Par exemple, il y en a eu des photos quand ça s'est fait à Versailles. Leur apprendre à contribuer, principalement, c'est ça, finalement. Et quand le Wikipédien est parti, avoir une équipe qui, elle-même, peut transmettre, poursuivre.
Parce qu'elle a été formée. Voilà.
Exactement.
D'accord.
C'est le but. C'est ce qu'on essaie de faire.
D'accord. Et dans les autres projets de Wikimedia, est-ce que tu veux en mettre un en valeur, Pierre-Yves ?
Un autre volet important, c'est tous les projet destination de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et de la recherche. notamment grâce à deux partenaires qui sont le CLEMI et la Fondation AFNIC qui nous accompagnent là-dessus. Donc nos actions se déclinent sous différents projets. On en a notamment un MOOC, donc c'est un cours en ligne qui permet de se former à Wikipédia. À l'heure actuelle, il existe en français et il y a les versions en langue arabe et en berbère qui sont en cours de construction. Il y a aussi nos projets se déclinent sous forme de wiki concours lycéen. Donc l'idée, c'est de former, d'utiliser un peu ce Wikipédia qui est un peu l'outil sexy qui permet d'intéresser les jeunes lycéens à les sensibiliser à l'éducation, aux médias et à l'information, les fameux fake news comme on dit depuis quelques années. Mais en fait, bon, nous, on travaille là-dessus depuis pas mal d'années avec les lycées.
Et vous travaillez beaucoup plus sérieusement que certains politiques qui annoncent combattre les fake news tout en produisant eux-mêmes. Je ne ferai aucune référence précise, mais je pense que les gens comprendront. Vas-y.
Et il y a aussi, ça va jusqu'au doctorat, par exemple, à Lille. On forme régulièrement les doctorants de l'Université de Lille à l'utilisation de Wikipédia, et notamment afin qu'ils rédigent des articles sur leur spécialité. Donc voilà un axe assez important, et je donnerai aussi un autre Vas-y. Axe qu'on est en train de développer, c'est dans notre nouveau plan d'action, c'est la diversité. On veut diversifier en fait les communautés qui contribuent à Wikipédia, parce que même si tout le monde sur le papier peuvent contribuer à Wikipédia, on observe des biais, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc outre le biais de genre, en fait, on essaye de recruter des rédacteurs et des bénévoles en Outre-mer, en France ultramarine, et aussi dans le reste de la francophonie. Parce que Wikimedia France est l'organisation la plus importante de francophonie, mais on souhaite aussi aider nos collègues du reste de la francophonie. Ça va de la Belgique, le Canada et puis surtout l'Afrique. Qui est en train de débarquer massivement sur les projets Wikimedia. Donc on essaie de les accompagner, notamment grâce à des petites bourses. On a ce qu'on appelle la commission microfinancement, qui a un budget de 50 000 euros. Et donc les rédacteurs de l'encyclopédie peuvent proposer des projets. Et on leur alloue à hauteur de jusqu'à 2 000 ou 5 000 euros s'ils sont particuliers ou regroupés sous une forme associative. Donc ça permet de financer des petits projets sur leur territoire.
En tout cas, plein de projets d'accompagnement pour que cette encyclopédie progresse et que la diversité gagne évidemment l'encyclopédie. Je vais finir sur une dernière question. On ne peut pas passer à côté de cette question, justement sur les liens entre les chapitres et l'encyclopédie. On va prendre un exemple très concret, évidemment, qui est en lien avec la proposition de directive droit d'auteur, parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Donc récemment, il y a eu l'annonce d'une campagne de fermeture d'un certain nombre de sites. Donc un appel à fermer des sites le 21 mars 2019. Donc l'April a fermé son site, d'autres ont fermé leur site. Et il y a eu évidemment au niveau des chapitres Wikipédia, des structures locales, on va dire, il y a eu des débats ou en tout cas, pour savoir est-ce que tel ou tel site allait fermer. Donc tout à l'heure on parlait de l'Allemagne, le site allemand a fermé. Et il y a eu un débat au niveau du site français. Le site français n'a pas fermé. Alors très peu de temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand il y a ce sujet-là? Qui propose le sujet et comment ça se passe en interne pour qu'une décision soit prise?
Alors là, justement, c'est un exemple intéressant de la différence entre ce qui est un chapitre et puis ce qui est une communauté linguistique d'une Wikipédia. C'est que en tant que chapitre, nous pensions, nous, Wikimedia France, que c'était très important de se mobiliser contre pas contre la directive, attention. La directive, elle avait beaucoup de points très intéressants.
Contre les articles 11 et 13.
Voilà, deux articles seulement nous posaient des problèmes. Et on nous a fait valoir qu'on était exemptés de l'article en question. Mais enfin, bon, ça ne change rien parce qu'une loi qui exempte ceux qui sont en situation de monopole, je me demande si c'est vraiment une bonne loi. Bon. Enfin, c'est mon point de vue, je viens de le donner là, mais j'aurais pas dû peut-être. Mais on a essayé d'organiser sur l'encyclopédie, donc auprès des communautés, une prise de décision pour savoir si ils étaient d'accord, eux, les contributeurs, les contributrices habituelles, si ça les concernait suffisamment pour mettre soit un bandeau d'avertissement, soit même faire un blackout comme certaines autres Wikipédia l'ont fait. Par exemple, les Italiens, les Catalans ont complètement noirci leur site. Il y a eu des bandeaux chez les Danois, chez les Tchèques, les Slovènes, enfin j'en oublie, mais il y a eu beaucoup de mobilisation. La page de décision de la Wikipédia francophone a été assez mouvementée. On l'a ouverte un petit peu tard, peut-être. Et puis, c'était vraiment serré. C'était vraiment les arguments pour et contre se sont développés. Puis finalement, il a été décidé de ne pas le faire parce qu'on a obtenu quelque chose comme 66% de oui.
Alors qu'il fallait 75% de oui.
Voilà, au départ. Enfin bon, ça aussi, ça a été décidé un peu au dernier moment.
Mais en tout cas, c'est intéressant de préciser que la décision a été prise par la communauté.
Oui, bien sûr.
Et que ce n'est pas l'association Wikimedia France qui a pris cette décision, parce que l'association Wikimedia France, et on y reviendra justement après la
D'ailleurs, on a un de, bon, c'est pour l'anecdote, un de nos administrateurs qui naïvement est allé voter et qui n'est pas un Wikipédien, il n'a pas assez de contributions et on lui a retoqué son avis.
D'accord. Alors d'un point de vue pratique, on a parlé de date peut-être un peu tardive, de seuil, de date de clôture. En fait, qui fixe ce seuil et cette date de clôture, Pierre-Yves ?
Tout est fixé par la communauté. En fait, avant de lancer le vote, ils décident la façon dont ils vont voter. Donc là, chaque Wikipédia linguistique a son mode opératoire différent, parce que le seuil qui est pratiqué dans la Wikipédia germanophone, par exemple, aurait permis à la Wikipédia francophone de protester. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une majorité, une large majorité, il y a 66 ou 67% qui étaient pour quand même protester, mais c'est vrai qu'on n'a pas atteint le seuil de 75%, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas, on cherche à obtenir le consensus et non pas juste 50,1%. Je pense que c'est une bonne chose, notamment pour des grosses mobilisations, voire la fermeture du site, il faut pas non plus le prendre à la légère. Et que ça soit juste un petit groupe de 10 personnes dans son coin qui décide de ça au nom d'un projet qui fait référence aujourd'hui sur Internet.
Tout à fait. Mais en tout cas, c'était important d'avoir cette précision-là. Une dernière question. Il y a un projet qui n'est pas lié à la Fondation, mais que les gens connaissent peut-être, c'est Vividia, qui est donc un projet d'encyclopédie francophone en ligne en wiki destiné aux 8-13 ans. Donc c'est
Wikidia.
J'ai dit quoi ? J'ai dit Vividia.
Oui.
Ah, excuse-moi. Donc Wikidia, Wikidia.org. Tu me disais, Pierre-Yves, avant qu'on prenne l'antenne, que vous alliez travailler avec les gens de cette structure, c'est ça ?
On est en cours de discussion. On souhaite les accompagner. D'accord. Pour qu'ils se structurent. En fait, le site a énormément de succès. Wikidia existe dans plusieurs langues, comme Wikipédia, je crois une demi-douzaine au moins. Et donc, ils sont un peu dépassés par le succès. Ils ont des besoins financiers, hein, comme n'importe quel site. Donc voilà, on va essayer de voir pour les accompagner. Parce que nous, on a beaucoup de partenaires qui souhaitent travailler sur Wikidia, notamment beaucoup d'enseignants d'école primaire et du collège aussi. Et donc voilà, on va voir, essayer d'accompagner et de permettre que ce projet perdure dans le temps.
Et ce serait d'ailleurs assez naturel, enfin ça me semble moi assez naturel de les accompagner, parce que c'est un wiki également qui fonctionne sur les mêmes principes, et c'est un vivier de contributeurs pour Wikipédia.
Tout à fait.
Beaucoup de nos jeunes Wikipédiens viennent tout droit de Wikidia.
Tout à fait. Ben on va s'arrêter là, même si on va encore rester, on va encore parler de Wikipédia tout à l'heure dans la partie directive de droit d'auteur, mais il faut justement laisser un petit peu de temps sur cette directive. Donc je remercie Pierre-Yves Baudouin et donc Nadine Le Lirzin, wikipédien et wikipédienne de longue date. Les dates qu'on a citées, donc le 25 mai à la Gaîté Lyrique à Paris, l'atelier 100 pages, dont on a parlé tout à l'heure. Également ce jeudi à la FPH, donc toujours à Paris, de 19h30 à 22h, c'est la soirée de contribution libre, et le deuxième jeudi, c'est Wikipédia, notamment Wikimedia France, qui propose de contribuer à ces multiples projets, donc deuxième jeudi de chaque mois. Et évidemment, il y a sans doute des ateliers dans d'autres lieux en France. Vous allez sur le site de Wikimedia France et wikimedia.fr, je crois qu'on ne l'a même pas cité. Donc on va faire une pause musicale avant notre dernier sujet. Le titre s'appelle Faust et l'artiste, c'est John Vallis.
Cause commune.
Nous venons d'écouter Faust de John Vallis, musique disponible en licence libre Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur donc Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors nous allons faire un petit point sur la proposition de directive droit d'auteur. On en a déjà parlé la semaine dernière suite au vote au Parlement européen, mais ça va être l'occasion aussi d'annoncer les prochaines étapes parce que tout n'est pas fini. Et donc avec moi pour parler de ça, il va y avoir toujours Pierre-Yves Baudouin de Wikimedia France et également mon collègue Étienne Gonu. La directive a été évidemment adoptée en première lecture par le Parlement européen. Et quelles sont les prochaines étapes ?
Salut Fred, déjà, bonjour Pierre-Yves. Alors la prochaine étape au niveau toujours du Parlement, enfin pas du Parlement, de l'Union européenne plutôt, c'est la validation par les États membres au sein du Conseil de l'Union européenne. Alors ce vote aura lieu le 15 avril, donc semaine prochaine. Ça paraît très, très compliqué d'obtenir un rejet de ce texte, mais on voit notamment, on a des échos positifs, hein, par exemple, qui nous viennent, là, aujourd'hui, on a vu de Suède, parce que le Parlement suédois, enfin, la commission au sein de ce Parlement suédois qui s'occupe des affaires européennes a signifié son opposition au texte, et le gouvernement a dit, si le Parlement suédois s'oppose, on suivra bien sûr le Parlement, donc on voit un autre système. Hein. Et puisqu'on sait que le gouvernement français les politiciens français en général aiment à citer les Scandinaves en exemple, on les invite à suivre cet exemple-là et à s'opposer à ces directives. Donc voilà, ce prochain étape décisif sera le 15 avril. On doute que la France change de position, mais peut-être que d'autres États suivront l'exemple de la Suède.
D'accord. Et si le 15 avril, les États membres adoptent le même texte, qu'est-ce qui va se passer en France ?
Du coup, cette directive ne sera plus une proposition, mais une directive à proprement parler. Et pour toute directive, l'étape suivante, c'est pour les États membres, à l'intérieur du cadre posé par la directive, d'écrire une loi, pour transposer, c'est le terme, de transposer dans le droit national par une loi la directive. En France sera très certainement dans le cadre de la loi audiovisuelle. Il y a déjà eu une mission d'information qui annonçait effectivement qu'il parlait de ces mesures de reconnaissance. Enfin, là, dans le texte, c'était déjà le terme était choisi.
Et la mission d'information, c'est qui ? Alors, qui sont les membres de cette mission ?
Alors, la rapporteure était Aurore Berger, qui, au sein de l'Assemblée nationale.
Je croyais que tu faisais référence au CSPLA, CSA et l'ADOPI.
Pardon, oui, effectivement, il y a deux. Bon, alors il y a effectivement ces missions d'information qui étaient antérieures, enfin pendant les projets de directive, on en parlait déjà, et qui soutenaient déjà, donc dès l'année dernière, la directive en cours de discussion et qui défendaient corps et âme cet article, l'article 13. Et le lendemain ou deux jours après le vote par le Parlement européen, le vote du 26 mars, le ministre de la Culture français, Franck Riester, annonçait effectivement dans un discours, je ne sais plus dans quel cadre exactement, mais il annonçait. Qu'il confiait à trois organismes français, donc l'Adopi, tristement célèbre Adopi, le CNC, qui est le Conseil National du Cinéma, et le CLSPA, qui s'occupe, on va dire, de la gestion de la taxe copie privée. Ces trois organismes doivent mener une étude sur comment appliquer des systèmes de reconnaissance de contenu, donc des filtres, pourtant qu'on nous présentait comme n'étant pas le sujet de la directive. Mais elles sont chargées, voilà, d'étudier cette piste-là.
Et on notera qu'a priori, les conclusions sont connues déjà d'avance, vu la typologie de ces structures, et aussi l'absence, par exemple, du Conseil national du numérique, qui est quand même normalement une instance qui devrait être sollicitée pour participer à ce sujet. Pierre-Yves, on a donc Baudouin, président de Wikimedia France, juste avant la pause musicale, on parlait de l'action du 21 mars, notamment avec en Allemagne la page de Wikipédia Pédia allemande qui était fermée, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que Wikimedia France, notamment grâce à ton action, a été très active contre la directive. Est-ce que tu tiens un petit bilan de cette première phase de mobilisation, parce que c'est évidemment pas terminé, à titre personnel ou au titre de Wikimedia?
Malgré le fait qu'on ait évidemment perdu, nous, pour notre part, chez Wikimedia France, on a beaucoup appris, notamment en travaillant avec Étienne de l'April et d'autres acteurs. On a beaucoup appris sur le contexte français, notamment ceux qui sont absents ou ceux qui nous ont éventuellement trahis ou déçus dans ce combat. Donc sur les forces et les faiblesses de la France.
Quand tu dis trahi, tu penses à... Bon, si tu veux pas citer, tu cites pas, mais...
Si, je peux le dire. Je pense notamment Quant qui fait sa déclaration deux jours avant le vote. C'est vraiment, à mon avis, de la provocation. Et c'est pas juste une erreur de compréhension de notre part, comme ils essayent de le dire depuis le vote. Donc voilà, parce que notre objectif, en fait, on sait qu'en France, ça va être très très compliqué. On a vu dans le résultat des votes des eurodéputés français. Donc c'est un objectif à moyen terme de structurer un peu les organisations, sensibiliser les élus, le reste aussi des autorités. Je consacre pas mal de temps à faire le tour de Paris. J'ai vu la semaine dernière le CSA, par exemple. Voilà, on va essayer de voir l'ARCEP, même si l'ARCEP, c'est probablement les plus compétents et les plus sérieux sur ces questions-là.
Bah, c'est-à-dire qu'ils sont tellement compétents et sérieux qu'ils n'ont pas été invités à la table pour participer à l'étude.
Donc voilà, on vise un peu le moyen terme, mais c'est vrai qu'il faut quand même combattre dès maintenant, parce qu'il y a un ensemble de lois, enfin de textes législatifs. Il n'y a pas que la directive, il y a aussi un règlement européen. Donc là, c'est pire, les règlements, ça s'applique automatiquement, il n'y a même pas besoin de le transposer, qui vise à limiter les contenus terroristes en ligne. Sur le papier, tout le monde, bien évidemment, est contre le terrorisme. Après, dès qu'on rentre dans les détails, les principes sont les mêmes. Ça va être recourir au filtrage, même si, pareil, ils estiment que non, il n'y a pas d'obligation de filtrage, mais dans les faits, pour pouvoir retirer du contenu sous l'heure, une fois que vous êtes prévenu, il va falloir que n'importe quel site, pas que les GAFA, hein, c'est pas des textes qui concernent que les GAFA, n'importe quel site, mais si vous avez un petit blog, un petit site internet, il faudra, dès que vous êtes contacté, le retirer dans l'heure. Et pareil, au niveau français, il y a aussi des textes dans les tuyaux qui luttent contre le discours de haine, par exemple, qui sera voté avant l'été. Donc tout cela, en fait, font partie d'un même principe. Les mêmes erreurs sont reprises et sont appliquées à différentes thématiques. Donc il y a la haine, il y a le contenu terroriste, et il y a le droit d'auteur. Après, je pense qu'il y aura le sport dans un ou deux ans, par exemple. Enfin voilà, ils sont en train de reprendre en main assez drastiquement Internet et de limiter la liberté d'expression, hein, globalement.
Étienne, tu veux rajouter quelque chose avant le jingle musical?
Juste peut-être pour repréciser par rapport en termes de timing, a priori, la loi là, que j'évoquais, dans laquelle sera transposé donc cet article 13, on imagine que le Conseil des ministres se réunira à la rentrée, enfin au début de l'été, pour avoir un projet de loi, sans doute à la rentrée, mais de toute façon, on vous tiendra au courant, bien sûr.
Alors, on précise aussi que l'article 13 est devenu l'article 17 dans la version définitive. Donc, la communication, maintenant, va être à partir, sans doute, de l'article 17. Et que la transposition, le projet de loi, peut aussi arriver pendant l'été, pendant que les gens, certains, ont la chance de prendre des vacances, peut-être en juillet. Là. Souvent, les sessions parlementaires se terminent fin juillet, voire début août. Ben, en tout cas, merci pour ce point. Évidemment, nous allons vous tenir au courant. Donc, n'hésitez pas à suivre les sites de l'April et de Wikimedia France. Donc, april.org et wikimedia.fr. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Quelques petites annonces. D'abord, je profite que ma collègue Isabella Vanni soit en régie aujourd'hui pour signaler que donc, le Libre en Fête 2019 s'est terminé. Donc, le Libre en Fête, c'est des événements partout en France et même ailleurs pour sensibiliser autour du logiciel libre. Et cette année, il y a un record du nombre d'événements organisés. 240. Ah non, on me signale 250 événements. Donc, il y a même encore plus d'événements après. C'est magnifique. Alors, évidemment, je félicite Isabella qui a eu un rôle de coordinatrice important, mais aussi évidemment avant tout les structures et personnes qui ont organisé ces événements partout. Et donc rendez-vous l'an prochain autour du 20 mars 2020. Pierre-Yves Baudouin vient d'en parler, donc il y a la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc le vote en commission des libertés civiles a eu lieu au Parlement européen donc hier. A priori, comme on l'a dit tout à l'heure, le vote en plénière aura lieu la semaine prochaine, avec notamment évidemment, comme tu l'as dit, Pierre-Yves, l'obligation pour les acteurs de l'Internet à retirer en une heure un contenu considéré comme terroriste. Et là, ça ne concerne pas que Google, Facebook, etc. Ça peut concerner de très nombreux acteurs, Wikimedia, l'April, les chatons, dont je parlerai tout à l'heure en fin d'émission. Dans l'actualité, tout à l'heure, en introduction, je parlais du projet de loi pour une école de la confiance. Surveillez le site de l'April parce que l'examen au Sénat va commencer. Il y avait l'audition du ministre Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Je l'ai cité déjà tout à l'heure, mais je le recite. La soirée de contribution libre, donc, ce jeudi, à la FPH, donc à Paris, avec l'atelier Wikipédia, qui a donc lieu chaque deuxième mardi du mois. Pour les autres événements qui se passent partout ailleurs, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Donc, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Nadine Lelirzin, Pierre-Yves Baudouin, Véronique Bonnet, même si la chronique était enregistrée, en régie et aussi au micro, donc Étienne Gonu, et en régie Isabelle Avani, que je félicite pour sa première régie, maîtrisée de bout en bout. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Donc la prochaine émission aura lieu mardi prochain, à 15h30. Notre sujet principal portera sur le collectif des chatons, des acteurs qui pourraient être impactés par ces dispositifs. Donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Nous aurons trois personnes qui feront des miaou miaou de chatons différents, Framastoff, l'April et Infini. Nous vous souhaitons donc de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.